Rien de trop. Combien souvent on conseille à l'individu de se fixer un but qu'il ne peut pas atteindre et qui est au-dessus de ses forces, pour qu'il atteigne du moins ce que peuvent rendre ses forces sous la plus haute pression. Mais cela est-il vraiment si désirable? Les meilleurs hommes qui vivent selon ce principe et les meilleurs actes ne prennent-ils pas quelque chose d'exagéré et de contourné, justement parce qu'il y a en eux trop de tension? Un sombre voile d'insuccès ne s'étend-il pas sur le monde par le fait que l'on voit toujours des athlètes en lutte, des gestes énormes et nulle part un vainqueur couronné et joyeux de sa victoire? Ce qui nous est ouvert. On peut agir avec ses instincts comme un jardinier, et ce que peu de gens savent, cultiver les germes de la colère, de la pitié, de la subtilité, de la vanité, de façon à les rendre aussi féconds et productifs qu'un beau fruit d'espalier. On peut s'y prendre en usant du bon ou du mauvais goût d'un jardinier, et en quelque sorte à la façon française ou anglaise ou hollandaise ou chinoise. On peut aussi laisser faire la nature et veiller seulement çà et là à un peu de netteté et de propreté. On peut enfin, sans aucune science et sans raison directrice, laisser croître les plantes avec leurs avantages et leurs obstacles naturels, et les abandonner à la lutte qu'elles se livrent entre elles. On peut même vouloir prendre plaisir à un tel chaos et rechercher justement ce plaisir malgré l'ennui qu'on en a. Tout cela nous est ouvert. Mais combien y en a-t-il donc qui savent que cela nous est ouvert? Presque tous les hommes ne croient-ils pas en eux-mêmes, comme à des faits accomplis, arrivés à leur maturité? De grands philosophes n'ont-ils pas mis leur sceau sur ce préjugé avec leur doctrine de l'immuabilité du caractère? Éclairer son bonheur. Les peintres ne peuvent atteindre par aucun moyen le ton profond et lumineux du ciel tel qu'il existe dans la nature. Par conséquent, ils sont forcés de prendre toutes les couleurs dont ils ont besoin pour leur paysage, de quelques nuances plus basses que de les montrer à la nature. C'est ainsi qu'ils réussissent à atteindre, par les artifices de leur art, une ressemblance dans l'éclat et une harmonie des tons qui correspondent à la nature. De même, il faut que les poètes et les philosophes, pour qui l'éclat lumineux du bonheur est inaccessible, sachent se tirer d'affaire. En donnant à toutes les choses un coloris de quelque ton plus sombre que celui qui leur est particulier, la lumière à quoi ils s'entendent fait un effet presque ensoleillé et ressemble à la lumière du plein bonheur. Le pessimiste, qui donne à toutes choses les couleurs les plus noires et les plus sombres, ne se sert que de flammes et d'éclairs, du gore céleste et de tout ce qui possède une force lumineuse très vive et qui rend les yeux hésitants. Chez lui, la clarté n'est là que pour augmenter l'épouvante et pour faire soupçonner dans les choses plus de terreur qu'il n'y en a en réalité. Les sédentaires et les hommes libres. Ce n'est que dans les enfers que l'on nous montre quelque chose du fond sombre qu'il y a derrière cette béatitude d'aventurier qui enveloppe Ulysse et ses semblables, comme d'une éternelle luminosité, de ce fond que l'on ne peut plus oublier alors. La mère d'Ulysse est morte de chagrin et du désir de son enfant. L'un est poussé de lieu en lieu, et c'est là ce qui brise le cœur de l'autre, de l'être tendre et sédentaire. L'affliction brise le cœur de ceux qui voient celui qu'ils aiment le plus abandonner les idées et la foi du passé. Tout cela appartient à la tragédie que créent les esprits libres. Cette tragédie dont ceux-ci ont quelquefois connaissance. Alors, il leur arrivera d'être forcés de descendre parmi les morts pour leur enlever leur chagrin et pour tranquilliser leur tendresse.